L'essence profonde de la mort de Jésus et de la nôtre. La messe, la Sainte Eucharistie, reste le lieu privilégié de la rencontre de Dieu et de l'homme, au cœur même du mystère du mal auquel chacun de nous s'affronte. Car maladie, détresse du cœur, deuil et séparation sont le lot de toute vie humaine. Aussi, plusieurs fois au cours de sa vie, Jésus tentera d'expliquer à ses amis, sans beaucoup de succès d'ailleurs, sa victoire sur la souffrance et la mort. Il vient les prendre à bras le corps pour libérer l'homme de sa peur, montant à Jérusalem où il prévoit l'affrontement qui le conduira à la croix. Il parle aux siens de cette heure comme du moment décisif de l'histoire où son abandon au Père détruira à jamais la mort, toute mort. Voici que nous montons à Jérusalem et que va s'accomplir tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme, car il sera livré aux gentils et sera un objet de moquerie, et il sera insulté et couvert de crachats, et après l'avoir flagellé, ils le tueront, mais il ressuscitera le troisième jour. Évangile de Luc 18, 33. C'est bien là que réside le sacrifice du Christ, dans son abandon à la volonté divine. Dieu a laissé agir les hommes qui ont voulu paralyser l'action de son Fils. Ils ont voulu annihiler son action rédemptrice, en poussant jusqu'au meurtre. Dieu a laissé jouer leur liberté face à leur salut. Ces hommes ont barré la route au Rédempteur, à sa royauté, à son action sur le peuple, et ils ont tué le Fils. Mais Dieu a répondu à son bien-aimé par une action encore plus entière. Il l'a ressuscité. Car l'essence profonde, comme la grandeur de son sacrifice, réside en ce qu'il espère au-delà de la mort. Il ne fondera pas le royaume terrestre de David. Il ne convertira pas Israël. Il sera pris, bafoué, tué. Mais le troisième jour, il en est sûr, le Père le ressuscitera. Son amour a dépassé le tragique de son destin. Son amour a dépassé sa propre mort, tant il est sûr de ce Père. Voilà ce que Pierre, pas plus que les autres apôtres, n'ont pas pu saisir. D'où la véhémence du Seigneur sur le chemin de Césarée lorsque Pierre lui répond « À Dieu ne plaise, Seigneur, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes sentiments ne sont pas ceux de Dieu, mais ceux des hommes. » Le sacrifice de Jésus, c'est avant tout la réponse à la question de tout homme venant en ce monde. Pourquoi la mort? Jésus accepte la mort, n'importe quelle mort, et nous rejoint ainsi dans son sacrifice. Il le sait, Dieu dans son amour a osé créer l'homme, cet être fragile et mortel, non pour la mort, mais pour lui offrir sa vie, la vie éternelle. Car le Fils de l'homme ne fait que traverser la mort et devient à jamais la porte de brebis. Désormais, à chaque messe, chaque Eucharistie, grâce à ce corps du Christ livré, à ce sang du Christ versé auquel nous participons, notre propre abandon à la volonté du Père rejoint son acceptation filiale sur le chemin de la résurrection. Or, ils étaient en route, montant à Jérusalem. Et Jésus marchait devant eux, et ils étaient saisis d'étonnement, et ceux qui suivaient avaient peur. Évangile de Marc 10, 32. Il va vers Jérusalem, depuis quelque temps déjà, mais encore plus depuis la résurrection de Lazare. Ses apôtres sentent la haine qui les entoure, et qui vise plus spécialement leur maître. Ils réalisent encore mieux son isolement et sa souffrance dans cette marche solitaire qui précède de peu la troisième prédiction de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Et ils n'ont compris rien de cela, et cette parole leur était cachée, et ils ne savaient pas ce qu'il leur disait. Évangile de Luc 18, 34. C'est la grande réponse de la foi face à la fragilité de la création. Jésus accepte d'être homme mortel et nous engage sur la même voie. C'est le chemin difficile de la foi. C'est notre liberté qui peut nous engager à la suite du Seigneur dans un même choix, croire avec Jésus à la réalité du royaume des dieux. Le mystère du Fils de l'homme. Ce n'est pas par des discours que Dieu nous explique les mystères de la souffrance et de la mort. Jésus, son Fils bien-aimé, devenu homme, le vit comme chacun de nous. C'est alors de l'intérieur que Dieu parle à nos cœurs, au milieu de nos détresses. Et prenant à nouveau les 12 auprès de lui, il s'est mis à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux princes des prêtres et aux scribes, et ils les condamneront à mort, et le livreront aux gentils. Et ceux-ci se moqueront de lui, et cracheront sur lui, et le flagelleront, et le feront mourir. Mais après 3 jours, il ressuscitera. Évangile de Marc 10, 32 à 34. Jésus n'emploie pas par hasard cette expression du Fils de l'homme, au moment où il va entrer dans sa grande souffrance et dans la mort. Car Jésus ne peut rejoindre l'homme dans sa détresse que parce qu'il est l'un de nous. Étrange expression que chérit celui qui est le Fils de Dieu et qui se sait en même temps Fils de Marie et par elle Fils de l'homme. Il prit chair de la Vierge Marie et le Verbe s'est fait chair. Il nous rejoint donc dans les tragiques de notre destin parce qu'il est le Fils de Marie et qu'il vit cette fragilité, cette inquiétude qui sont les nôtres. Il accepte cette condition comme un fils qu'il est et qui connaît l'amour insondable du Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils voudrait le révéler. Évangile de Matthieu 11, 27. Il prend sur lui notre souffrance. Il vit avec elle, dans sa perspective, sans s'en effrayer, la connaissant dans toute son horreur. Pour lui, elle est vraiment inscrite dans sa mission de Fils de l'homme, inscrite dans les Écritures saintes. Voici que nous montons à Jérusalem, et que va s'accomplir tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme, car il sera livré aux gentils. Non, pour lui, Dieu ne nous a pas créés pour une mort absurde. La volonté de celui qui m'a envoyé est que je ne perde rien de ce qu'il m'a été donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Car telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui, possède la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Évangile de Jean 6, 39. Le premier de tous les hommes, il accepte la mort, passage vers la vie, dans une confiance totale. C'est ce qu'il nous dit dans la parabole du bon pasteur. Mon Père m'aime pour ce motif que j'offre ma vie pour la prendre de nouveau. Personne ne me l'a enlevée, mais je l'offre de moi-même. J'ai le pouvoir de l'offrir et le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Évangile de Jean 10, 17. Deux racines du mal. L'amour du pouvoir et celui de la richesse. À travers l'Évangile, Jésus s'attaque très souvent à deux racines du péché, source de tant de désordre dans le monde, la cupidité et un appétit démesuré de pouvoir et de puissance. Mais ne faisons pas de Jésus un anarchiste, ce serait ridicule. Il est roi et il le sait, il est Seigneur et Maître. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Évangile de Jean 13, 13. Il possède autorité et pouvoir, mais il en use toujours au bénéfice des pécheurs, des malades, des mal-aimés. Son pouvoir est bénéfique. Jésus connaît donc ce que représente le pouvoir. Un service dont, malheureusement, nous pouvons abuser en le détournant à notre profit personnel. Il a su éviter la griserie du pouvoir à commencer par le rejet de la tentation au désert. Aussi, lorsque le fils des Zébédée, Jacques et Jean, appuyés par leur mère, viendront lui demander la première place dans son royaume, l'accueil sera-t-il assez frais? Vous ne savez pas ce que vous demandez. Évangile Matthieu 20-22. Le royaume de Dieu n'est pas une affaire de réussite humaine. Les introductions, les recommandations, rien de tout cela ne joue plus ici. C'est le Père qui, dans son amour, prédestine les hommes à cet amour, et les plus petits sont les préférés. Mais quant à être assis à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. C'est pour ceux à qui cela est destiné par mon Père. Évangile de Matthieu 20-23. Que ses fils ne se donnent donc pas à lui pour les premières places, car à ses yeux, rien n'est plus ambigu que les pouvoirs. Par contre, il les engage sur la voie mystérieuse, choisie par le Fils de l'homme, la voie du service et de la souffrance acceptée. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour le salut d'une multitude. Évangile de Marc 10, 45. Luc ajoute cette précision au texte de Marc. Il y eut aussi une rivalité parmi eux. Lequel d'entre eux pourrait passer pour les plus grands? Évangile de Luc 22, 27. Jésus, à cette occasion, va dire aux siens ce qu'il pense et il livre aux siens ses principes d'action. Les rois des nations s'en rendent les maîtres. Leurs princes reçoivent le nom des bienfaiteurs. Évangile de Luc 22-25. Quant à vous, n'agissez pas ainsi, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et que le chef soit comme celui qui sert. Évangile de Luc 22-26. En effet, au milieu de vous, je suis comme celui qui sert. Évangile de Luc 22-27. Face au pouvoir que l'on exerce, sa sagesse à lui, c'est de servir les autres. Il s'oppose donc à la mentalité courante. Il se fait le serviteur de tous. Pour Jésus, le pouvoir, avant tout, crée des devoirs à celui qui le détient ou l'exerce. Tout cela est si vrai pour nous, au niveau de nos familles, entre époux, entre enfants et parents, au niveau de nos relations sociales, entre employés et employeurs, au niveau politique, entre gouvernants et gouvernés. Il n'y a pas de communauté chrétienne possible si nous n'allons pas à l'encontre de la loi du plus fort, à l'encontre de l'orgueil qui veut dominer, s'imposer, exploiter. La vérité de l'Évangile. Jésus est attentif à ceux qu'il rencontre. Le voici à Jéricho. Et comme il sortait de Jéricho avec ses disciples, et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un mendiant aveugle, était assis au bord de la route. Et apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier et à dire, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le réprimandaient pour le faire taire, mais lui criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus s'arrêtant lui dit, « Appelez-les !» Et on l'appelle aveugle en lui disant, « Courage, lève-toi, il t'appelle !» Et lui jeta son manteau, bondit et vint en face de Jésus. Et Jésus, lui adressant la parole, dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et l'aveugle lui dit, « Rabouni, que je vois !» Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé !» Et aussitôt l'aveugle recouvra la vue. Évangile de Marc 10, 46 à 52. Cette guérison est une série d'instantanés. Les mouvements de la foule qui empêche l'aveugle de crier, et puis Jésus qui s'arrête, l'aveugle qui laisse tomber son manteau pour bondir vers Jésus, dialogue rapide qui s'engage entre Jésus et Bartimée, et enfin la guérison. Jésus a pris le temps de s'arrêter pour ceux qui criaient vers lui. Il prendra toujours le temps aussi pour nous aujourd'hui. Sa présence nous est toujours aussi nécessaire, et la lumière qu'il nous apporte aujourd'hui est une lumière intérieure, lumière de sagesse et d'amitié, pour éclairer notre route quotidienne et nous faire comprendre la souffrance selon les vues du Père. Les malades aussi entrent dans les vues d'amour du Père, mais seul Jésus nous explique les mystères du royaume, car c'est maintenant dans la réalité de notre vie humaine, des créatures fragiles, que le royaume se construit en nous. Le regard de Jésus. Le regard de Jésus transperce et transforme. Dans l'histoire de Zachée, il est noté que lorsque celui-ci grimpe sur un sycomore, Jésus, levant les yeux, lui dit « Zachée, descends vite, car il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. » Évangile de Luc 19, 5. Jésus fut l'homme de la rencontre. Ce génie du contact se révèle à nous à Jéricho avec Zachée le publicain. Ce petit homme, curieux de voir qui était Jésus, était en fait une canaille, ornie des gens. Il était riche et il était percepteur. La mesure était comble. Jésus aime et atteint l'homme riche ou pauvre. Pour lui, une seule chose est nécessaire, le chercher, chercher à le voir. Telle est l'histoire de Zachée. La personnalité puissante de Jésus se révèle à nous à travers tout ce récit. Car lui regarde et pénètre Zachée, apprécie sa droiture et n'en détache pas ses yeux. Mieux encore, il ose lever les yeux vers lui pour s'inviter à entrer dans sa maison. Avec quel plaisir Jésus lève les yeux vers cet homme perché sur son arbre et que sa recherche du Christ avait à ce point grandi. Regard plein de bonté et si engageant que rapidement voici Zachée au pied du maître. Et Zachée se hâta de descendre et reçut Jésus avec joie. Évangile de Luc 19, 16. Et Jésus ne s'est pas trompé ni au sujet de la qualité de l'âme de cet homme, qu'il reçoit dans la joie, ni sur la réaction haineuse de l'auditoire. Il est allé loger chez un pécheur. Évangile de Luc 19, 7. Or, Zachée debout dit en face du Seigneur, « Voici, Seigneur, que je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai fait tort à quelqu'un, en quelque chose, je rends quatre fois autant. » Évangile de Luc 19, 8. Jésus a donc transformé la vie de cet homme. D'un homme riche et méprisé, il s'est fait un ami. Ce percepteur aura désormais le courage de choisir le difficile chemin de la liberté et de se compromettre en compagnie du prophète. Il renonce à la fortune acquise avec tant d'âpreté. Voilà l'espérance et la liberté que nous apporte le Seigneur. Jésus dit devant lui, aujourd'hui, le salut est advenu à cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Évangile de Luc 19, 9 à 10. Le royaume des dieux, parabole des talents. Comme Jésus monte à nouveau vers Jérusalem, la foule pense pressentir le règne de Dieu tout proche. Jésus leur raconte alors la parabole des mines et des talents pour détromper leur espérance terrestre, y soulignant cette opposition qui bientôt les conduira à la croix. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Ce sera le cri des princes des prêtres à Pilate. Nous n'avons pas d'autre roi que César. Voilà donc ce que Jésus met dans la bouche de ses concitoyens, car c'est lui évidemment le roi qui part pour un pays lointain, le pays de son père, et toute la parabole n'est que la prédiction de sa passion, de sa mort, de sa résurrection et de son lointain retour glorieux. Car il reviendra, mais va s'installer d'abord, après son départ, après sa mort, une longue période d'attente. Le royaume de Dieu est parmi nous, il débute par une période de lutte, dont le roi semble absent. Retourné près du Père, il est invisible. C'est le temps de la foi. Et pourtant, il a donné ses consignes avant de partir. Ayant appelé 10 serviteurs qu'il avait, il leur donna 10 mines et leur dit, « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Évangile de Luc 19, 13. Le mot de Jésus emprunté à la langue du négoce veut dire « faites des bonnes affaires ». Les talents nous sont offerts. Nous avons l'espérance du royaume entre les mains. Mais seuls ceux qui choisissent le Seigneur pour roi entreront dans le royaume des cieux. Il s'agit toujours de choisir le chemin difficile de la liberté chrétienne. Ce chemin sont ceux du don de soi-même. Dans l'ordre surnaturel et du royaume, notre faible activité humaine, appuyée sur l'amour envers ce roi lointain et sur la confiance sans faille de son retour, cette activité se voit comblée par la réponse « Serviteur bon et loyal, entre dans la joie de ton Seigneur ». Notre train-train quotidien sera transformé en gloire éternelle si nous avons su rester fidèles au roi lointain dans la foi. Un homme de noble origine s'en alla vers un pays lointain dans le dessein de recevoir la royauté et de revenir. Évangile de Luc 19, 12. Mais celui qui refusera l'amour dans les quotidiens perdra irrémédiablement tout, car non seulement la seule récompense valable, la vision de Dieu, lui échappera, mais il maudira cette vie terrestre vide et mal employée. La phrase de Jésus dans sa forme passive indique la stupeur de celui qui réalise brusquement le vide de sa vie et voit que l'essentiel, par sa faute, lui file entre les doigts. Je vous l'ai dit, à quiconque possède, on donnera, mais à qui n'a rien, on enlèvera même ce qu'il a. En effet, le plaisir, les biens, les pouvoirs, tout cela n'est vraiment rien que du vent face à la vie éternelle qui lui échappe de par sa propre faute, et cela, il ne le verra que trop clairement. Jésus est l'amitié, Jésus est les femmes. Jésus, 6 jours avant la Pâque, fait halte à Béthanie. Ce n'est pas chez ses amis, mais chez Simon, le lépreux, un malade qui l'a guéri sans doute. Ses amis Marthe, Lazare et Marie sont du festin. C'est d'ailleurs Marthe qui assure le service. Et Marthe servait. Évangile de Jean 12, 2. Lazare était de ceux qui étaient à table avec lui. Évangile de Jean 12, 2. Marie était là. Elle, bien sûr, son cœur éclatait, tant la résurrection de son frère en avait fait monter l'enthousiasme et l'amour. Pour remercier le Seigneur, rien ne serait trop beau ou trop cher. Elle prit donc une livre d'un parfum de nard authentique d'une grande valeur. Elle en versa une partie sur la tête de Jésus pendant qu'il était à table. Elle en oignit ses pieds, puis elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Évangile de Jean 12, 3. Évangile de Matthieu 26, 7. C'était vraiment la fête de l'amour, la fête de l'amitié, quand les mots ne suffisent pas, mais que le geste parle mieux encore pour traduire l'admiration des cœurs. Son geste provoque la réflexion méchante de l'Iscariote. Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers qui auraient été donnés aux pauvres? Évangile de Jean 12, 5. Jésus répond du tac au tac et prend la défense de Marie d'un mot coupant, un ordre, laisse-la. Évangile de Jean 12, 7. Lui saisit du premier coup ce qui pousse Marie. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. Elle a oint mon corps d'avance pour la sépulture. Évangile de Marc 14, 8. Le mystère de la mort du Seigneur n'a pas échappé à Marie. Voilà ce que Jésus souligne à son égard, et voilà pourquoi il ajoute à la gloire de cette femme. En vérité, je vous le dis, partout où sera prêché l'Évangile, dans le monde entier, on parlera aussi de ce que celle-ci a fait. Évangile de Marc 14, 9. Les deux sœurs de Lazare sont très conscientes du danger qui rôde autour de Jésus. Elles le savent, leur frère Lazare est devenu plus que gênant et le prince des prêtres trame de le faire mourir. Sa résurrection attire trop de monde vers ce prophète de malheur, ce Galiléen. La multitude des Juifs apprit donc qu'il était là, et ils vinrent, non pas seulement à cause de Jésus, mais afin de voir aussi Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Or, les grands prêtres résolurent de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, se retirèrent d'eux et croyaient en Jésus. Évangile de Jean 12, 9 à 10. Jésus fut un ami fidèle. Il comprenait la vie. Ses amis aimaient le recevoir, et ils croyaient en lui. C'est à Marthe que Jésus a révélé son identité. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu ? » Et cette femme lui avait crié sa foi. « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui vient dans le monde. » Évangile de Jean 11, 27.